Note 1. Le premier était la relation de la mort du chevalier de la Barre, le second était le cri du sang innocent, qui est de 1775. Note 2. C'est le cas du procès de Figaro dans la Grande Comédie de Beaumarchais. Cette préface serait-elle de l'auteur de La Folle Journée ? G.A. Note 3. Madame du Deffand, dans sa lettre à M. Walpole, du 23 August 1768, et les Mémoires secrets, du 10 mars 1708, parlent de la relation comme d'une nouveauté. Il s'agit de la nouvelle édition qui vit le jour en 1768, en octavo de 30 pages. Mais la première édition, in octavo de 24 pages, sans frontispice, avait paru en 1766. Elle est datée du 15 juillet de cette année. Cependant, la relation avait été envoyée la veille à Damy Laville. Voyez la lettre de Voltaire du 14 juillet 1766. Voltaire reproduisit sa relation en 1769, à la suite de la canonisation de Saint Cucufin, et dans le tome premier des « Choses utiles et agréables ». En 1771, au mot « justice », dans la septième partie de ses questions sur l'encyclopédie, voyez tome 19, page 550. Dans cette dernière impression, on n'avait mis que l'initiale B, au lieu du nom de Belleval, qu'on lit dans toutes les précédentes. Voyez tome 20, la note de la page 622. C'est à L.A. de Vérité, imprimeur à Abbeville, né en 1743, mort en 1818, que l'on doit le volume intitulé « Recueil intéressant sur l'affaire de la mutilation du crucifix d'Abbeville », arrivé le 9 août 1765, et sur la mort du chevalier de la Barre pour servir de supplément aux causes célèbres. Londres, Abbeville, 1776, in 12. L'histoire du chevalier de la Barre a fourni à Fabre d'Églantine le sujet de sa tragédie d'Augusta, jouée en octobre 1787. Marsollier fit, le 8 juillet 1791, représenter sur le théâtre des Italiens un drame en un acte, intitulé « Le chevalier de la Barre ». Le chevalier d'Étalonde, l'un des co-accusés de la Barre, et qui s'était soustrait à la condamnation prononcée contre lui, refusa des lettres de grâce qui lui furent offertes quelques années après, et obtint, en 1788, des lettres d'abolition. Il rentra en France et se fixa à Amiens, où il est mort quelques années après. L'auteur de la biographie d'Abbeville, 1829 in octavo, m'apprend qu'en 1789, la noblesse de Paris demanda dans ses cahiers la réhabilitation de la Barre, comme une suite des lettres d'abolition accordées à des Talondes. Les Mémoires secrets du 6 août 1706 parlent de trois lettres attribuées à Voltaire et datées du 6 juillet, relatives à la catastrophe de la Barre. Je n'ai pas été plus heureux que les éditeurs de Kell, qui n'ont pu se procurer ces lettres, de l'existence desquelles il est permis de douter. B. Note 4. Pierre-François Muillard de Vouglans, né à Moirance, près Saint-Claude, en 1713, mort à Paris en 1791, et auteur d'une « Réfutation des principes hasardés dans le traité des délits et des peines », 1767 in octavo. Mais ce ne peut être lui que désigne ici Voltaire, car Muillard est l'un des 8 signataires de la consultation du 27 juin. En faveur de la Barre et de ses co-accusés. B. Peut-être Voltaire n'avait pas encore reçu cette consultation lorsqu'il écrivit sa relation. Note 5. Jean-François Lefebvre, chevalier de la Barre, était de la famille des d'Ormesson. Note 6. Madame de Broux, abbesse de Villancourt. Voyez la lettre à d'Alembert du 21 novembre 1774. Note 7. Dans l'édition de 1775, on lit « Un nommé Saucourt espèce de jurisconsulte d'Abbeville, était ulcéré contre cette dame, parce que, lui ayant demandé pour son fils une demoiselle riche et de qualité, pensionnaire dans ce couvent, elle l'avait mariée à un autre. Ce Saucourt venait encore de perdre un procès contre un citoyen d'Abbeville, père d'un des jeunes gens qui furent impliqués dans l'horrible aventure du chevalier de la Barre. Saucourt cherchait à se venger. Il avait tout le fanatisme du Capitoul de Toulouse, David, principal assassin des Calas. Il joignait l'hypocrisie à ce fanatisme. Madame l'abbesse avait fait venir chez elle, etc. Nicolas-Pierre Duval, sieur de Soicourt, était lieutenant particulier, assesseur criminel en la sénéchaussée de Ponthieu et siège présidial d'Abbeville. B. Note 8. Voici le texte de 1775. Le sieur Saucourt commença d'abord par accuser le chevalier auprès de l'évêque d'Amiens de s'être habillé en fille dans le couvent. Il sut que le chevalier, etc. B. Note 9. C'était Louis-François Gabriel de la Motte, évêque d'Amiens. Dans l'amende honorable qu'il vint faire à Abbeville, le 12 septembre 1765, pendant que le juge instruisait encore l'affaire, ce prélat avait déjà prononcé sur le sort des prévenus, en disant qu'il s'était rendu digne des derniers supplices en ce monde. B. Note 10. Dans l'édition de 1775, on lit « Saucourt voyant », etc. Note 11. Dans l'édition de 1775, on lit « Mais », dit Saucourt. Note 12. Dans une première édition, on lit « Claude, dit Lacour, témoin unique, dépose qu'il a entendu dire au chevalier de la Barre qu'il avait connu un paysan qui s'appelait Bon Dieu et qu'il n'en était pas moins un. » Point de suspension. Feu. Point de suspension. Le 28 septembre, le nommé Sélincourt, etc. B. Note 13. Pantagruel, livre 3, chapitre 26. Note 14. L'édition de 1775 porte « Et le sieur de Saveuse ». Note 15. Voltaire en a déjà parlé, tome 4, du théâtre, page 405. Note 16. Voyez, tome 22, la note 2 de la page 175. Note 17. Voyez la note des éditeurs de Kell sur l'article 10 du prix de la justice et de l'humanité, et aussi celle sur la lettre du roi de Prusse, du 7 August 1766. Note 18. Il n'y en avait que 8. Voltaire les nomme dans « Le cri du sang innocent ». Note 19. C'était Guillaume-François-Louis, Joly de Fleury, frère d'Homère de Fleury. Note 20. Les premières éditions portaient, étonnante, le 5 juin de cette année 1766, ce qui était une faute, l'arrêt du Parlement est du 4 juin. B. Note 21. Voyez lettre à D'Alembert du 29 octobre 1774. Note 22. On le fit passer par Rouen. Il était dans une chaise de poste, au milieu de deux exempts, et escorté de plusieurs archers déguisés en courriers. Note 23. Le père Bosquier. Note 24. Prenons du café, dit le chevalier de la Barre après le dîner le plus paisible, quelques heures avant son exécution. Il ne m'empêchera pas de dormir. Voyez lettre à D'Alembert, 16 juillet 1766. Note 25. L'arrêt du Parlement portait seulement qu'on lui couperait la langue, c'est-à-dire qu'on la percerait avec un fer rouge. Le chevalier de la Barre s'y étant refusé, les bourreaux ne furent pas assez impitoyables pour le vouloir exécuter à la lettre. Ils en simulèrent l'action. Note 26. Les parents, les amis du chevalier de la Barre s'étaient intéressés à lui. On raconte même que le Parlement avait différé de 6 jours à signer son arrêt, espérant que le condamné aurait sa grâce. Mais Louis XV fut inflexible. Ce monarque, disait-on dans le temps, répondit que lorsqu'il avait paru souhaiter que son parlement cessa de faire le procès à Damien, ce parlement lui avait fait des remontrances, et qu'à plus forte raison, le coupable de lèse-majesté divine ne devait pas être traité plus favorablement que le coupable de lèse-majesté humaine. B. Note 27. Lorsque cette lettre faisait partie des questions sur l'encyclopédie, elle se terminait ainsi. « Je vous prie, monsieur, de vouloir bien me communiquer vos pensées sur cet événement. Chaque siècle voit de ces catastrophes qui effraient la nature. Les circonstances ne sont jamais les mêmes. Ce qui eût été regardé avec indulgence il y a 40 ans peut attirer une mort affreuse 40 ans après. Le cardinal de Retz prend séance au Parlement de Paris avec un poignard qui déborde 4 doigts hors de sa soutane. Et cela ne produit qu'un bon mot. Des frondeurs jettent par terre le Saint-Sacrement qu'emportait un malade, domestique du cardinal Mazarin, et chassent les prêtres à coups de plat d'épée, et on n'y prend pas garde. Ce même Mazarin, ce premier ministre revêtu du sacerdoce, honoré du cardinalat et proscrit sans être entendu, son sang est proclamé à 50 000 écus. On vend ses livres pour payer sa tête dans le temps même qu'il conclut la paix de Münster et qu'il rend le repos à l'Europe. Mais on n'en fait que rire, et cette proscription ne produit que des chansons. Altri tempi, altre cure. Ajoutons, d'autres temps, d'autres malheurs, et ces malheurs s'oublieront pour faire place à d'autres. Soumettons-nous à la Providence qui nous éprouve, tantôt par des calamités publiques, tantôt par des désastres particuliers. Souhaitons des lois plus sensées, des ministres des lois plus sages, plus éclairés, plus humains. B. Note 28, numéro 164 de ses Réflexions et Maximes.